Monsieur Julien Paluku, bonjour.
Oui, bonjour.
La situation d'insécurité persiste dans l'est de la RDC. En province orientale, on signale deux mouvements de troupes rebelles. La LRA fait parler encore d'elle. Au nord Kivu et au sud Kivu, les FARDC font face au FDLR, à ADF Nalu et aux différentes factions Maïmaï. En tant que gouverneur du nord Kivu, l'une des provinces affectées par cette situation, comment expliquez-vous cette persistance de l'insécurité?
Oui, effectivement, quand on lit l'histoire immédiate de l'Est de la RDC, on se rend tout de suite compte que toutes les rébellions ont eu comme épicentre l'Est de la RDC. Et donc, la circulation d'armes a été vécue ici par tout le monde, qu'il s'agisse de la province orientale, de la province du Nord Kivu, de celle du Sud Kivu. Les rébellions qui ont écumé la région ont laissé derrière elles des armes dans les populations locales. Mais également, comme vous le savez, à 86, il y a des rebelles ougandais qui ont traversé les limites, les frontières de notre pays. Lorsque le président Museveni a pris le pouvoir, il se sont installés dans le massif de Rwenzori, particulièrement dans les territoires de Beni. De même, en 1994, les rebelles rwandais sont venus s'installer dans l'ex-Kivu. Vous comprenez donc que c'est tout cela qui constitue l'origine même de l'insécurité, ajoutée effectivement aux groupes locaux comme les Maïmaï, qui sont particulièrement dans les Massissi, dans les Lubero, dans les Walikale, qui se joignent à ces groupes armés étrangers pour déstabiliser la région.
Monsieur le gouverneur, l'est du pays régorge un potentiel considérable du sol et du sous-sol, et certains experts affirment que c'est la cause principale de cette insécurité. Est-ce votre avis?
On ne peut pas nier totalement cette considération, parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de minéraux nouveaux qui ont été découverts, particulièrement au nord et au sud Kivu, mais également en province orientale, où il y a des puits qui sont presque à ciel ouvert pour avoir de l'or. Il suffit tout simplement de creuser à 1 mètre, à 2 mètres, on a de l'or. Certainement qu'il y a un lien entre l'existence de ces carrés miniers avec ces groupes armés qui se multiplient ça et là, comme par exemple dans les Massissi, dans les Walikale, ainsi qu'au sud Kivu. On note un lien entre les groupes Tcheka couplé aux FDLR avec certains carrés miniers dans ce même territoire. Donc, les efforts des FARDC actuellement, c'est de pouvoir couper maintenant ces liens entre donc ces groupes armés et les carrés miniers, de manière à ce que, en limitant leur approvisionnement, ils puissent se rendre aux forces armées et peut-être arriver à offrir la paix à l'ensemble de la population de l'Est de la RDC.
Vous estimez donc que si ces richesses n'existaient pas, ces groupes armés ne seraient pas en train de sévir à l'est du pays?
Non, je ne peux pas le dire comme ça, parce qu'il y a partout au monde où on a des richesses, mais on n'a jamais vu l'existence des groupes armés. Donc c'est peut-être un phénomène que nous avons vécu ici à l'Est, particulièrement à travers ces groupes armés étrangers qui se sont installés ici, qui n'avaient pas de moyens de survie et qui ont trouvé que avec ces minéraux, ils pouvaient effectivement s'offrir de quoi vivre. Et malheureusement, les Congolais les ont emboîté les pas, ce qui fait que aujourd'hui, si les groupes armés étrangers sont particulièrement forts, c'est parce qu'ils bénéficient d'une main forte des groupes armés locaux. Quand vous voyez les FDLR dans la région des Massissi, de Rutshuru et même au sud de Lubero, vous vous rendez compte que sur 10 FDLR, eh bien, 4 ou 5 d'entre eux, c'est particulièrement des populations locales. Et c'est ça d'ailleurs l'effort que nous sommes en train de mener pour essayer un peu de retirer les armes au sein de la population. Pas plus tard qu'il y a 48 heures, j'ai récupéré plus de 108 armes dans les territoires des Massissi pour essayer un peu de voir comment nous pouvons amorcer l'étape de pacification à longue durée de toute cette partie, parce que la population en a tellement souffert.
À quoi auront servi toutes ces opérations militaires contre ces différentes rébellions, parce que l'insécurité règne à maître?
Oui, les opérations militaires sont déjà bonnes, parce que si elles n'existaient pas, on aurait assisté à une catastrophe. Maintenant, nous devons changer de stratégie, et peut-être cela relève du secret de la défense. Je crois que parmi les stratégies qu'il faille explorer, c'est notamment le casernement des militaires, parce que nous avons trouvé que le fait que les militaires errent ça et là sans qu'ils proviennent d'un camp, cela constitue également un danger vis-à-vis de la population. Donc je crois que si cela est fait avec ce casernement, on va devoir recycler notre armée, on va devoir la professionnaliser, l'équiper. Cela permettra à ce que notre armée soit de plus en plus dissuasive de ce groupe armées étrangers et locaux. Donc c'est peut-être ça la solution qu'il faudrait explorer par les ministères de la Défense, couplé à l'état-major général de nos forces armées pour voir si on ne peut pas, à travers cette voie-là, essayer un peu de résoudre les problèmes qui se posent particulièrement à l'est, parce que l'insécurité a tellement duré que on devra changer de méthode, particulièrement l'abandon des opérations militaires et surtout l'équipement de nos forces armées pour que des opérations pointillées et ciblées puissent être orientées vers les quelques poches qui restent localisées ça et là.
Vous venez justement de le dire, lorsqu'une approche a démontré ses limites, pourquoi ne pas essayer une autre, dans les cas d'espèce, l'approche politique par exemple?
Non, on ne peut pas négocier par exemple avec les FLNR, surtout que parmi les génocidaires, sinon nous allons heurter certains principes du droit international. Tout ce que nous savons, c'est qu'en 2008, le chef de l'État a organisé une conférence sur la paix dans une approche politique pour essayer un peu de regrouper tous les groupes armés de manière à ce que nous puissions définir chacun son agenda, son cahier des charges, et qu'on voit comment on peut y apporter des solutions. Cette approche avait été explorée, elle a produit ses résultats. Malheureusement, on voit encore des groupes qui utilisent ça et là. Donc, je crois qu'on doit coupler les deux, à la fois l'approche militaire et l'approche politique, là où il le faut. Mais pour des groupes armés qui sont frappés par une interdiction par rapport au droit international, je crois que l'approche militaire serait toujours d'actualité sur tous les plans.
Monsieur Julien Paloukou, merci.